carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Avant André Chastel, personne n'avait exercé un magistère aussi puissant sur l'histoire de l'art en France. Né à Paris le 15 novembre 1912 et mort dans la même ville le 18 juillet 1990, André Chastel, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, hérita du prestige d'Henri Faucillon, dont il avait suivi l'enseignement et les conseils, et s'efforça toute sa vie de donner une place à l'analyse et à la connaissance des formes artistiques auprès de ses compatriotes, c'est-à-dire auprès des Français, parce qu'on verra que l'histoire de l'art n'était pas très avancée en France. Jean-Pierre Bablon, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous fait le plaisir de venir dans notre studio ici pour évoquer André Chastel, son maître, son associé, avec qui, Monsieur Bablon, bonjour, vous avez travaillé,
bonjour,
vous avez écrit La notion du patrimoine, et puis c'est à vous, ça semblait logique, que l'Institut a demandé d'écrire la notice sur la vie et les travaux d'André Chastel après son décès. Vous aviez donc des liens particuliers et vous souhaitiez personnellement lui rendre hommage.
Tout à fait, voilà. Je ne voudrais pas prendre le titre de disciple dès l'origine préféré de... Bon, puisque je n'ai pas suivi ses cours, j'étais à l'école des Chartes, je n'ai pas suivi ses cours à la Sorbonne, d'autre part, et puis bien des historiens d'art que je connais et que j'aime beaucoup, comme Michel Laclotte, pourraient, à meilleur titre que moi, prétendre véritablement avoir été un peu des fils spirituels. Néanmoins, j'ai eu des rapports très étroits dans des moments que je vais justement définir avec vous. Je crois, madame, que vous voulez un petit peu annoncer les célébrations qui vont être faites pour célébrer,
à la fin du mois de novembre,
commémorer le 100e anniversaire de sa naissance, donc en novembre. Donc il est, comme vous le disiez, né le 15 novembre 1912. Alors ces manifestations seront organisées sur 3 jours dans des lieux qui lui étaient évidemment particulièrement chers. Le premier jour, le jeudi 29, ce sera à l'Institut national d'histoire de l'art, sur lequel nous reparlerons, avec l'introduction de Marc Fumaroli, sur un thème qui est l'action publique, c'est-à-dire cette espèce de micro qu'il avait pris pour éduquer la société de ses contemporains sur les problèmes qui lui étaient chers. La deuxième journée sera le 30 novembre, le vendredi, au Collège de France. Il a été longtemps professeur au Collège de France. Et c'est sur les positions historiographiques d'André Chastel, c'est-à-dire ses rapports avec les historiens français, mais également italiens, allemands, etc. Donc, une espèce de confrontation avec ces hommes qui ont été les grands ténors de l'histoire de l'art dans leur pays, et avec lesquels il a entretenu des rapports suivis, toujours très étroits, à la quête de leurs pensées, de leurs recherches, et puis quelquefois se trouvant en opposition avec eux, n'est-ce pas ?
Donc, n'hésitez pas.
Le colloque déterminera justement ses rapports avec les uns et les autres, le Warburg Institute par exemple, ou Franck Castel, ou Daniel Arras. La troisième journée sera le samedi 1er décembre, de nouveau à l'Institut national d'histoire de l'art, et sera sur Chastel historien. Donc, il est curieux de dire que nous avons un Chastel historien, alors qu'on penserait plutôt un Chastel uniquement historien de l'art. C'est justement là que nous avons cette différence qu'il a, ou plutôt cette intégration particulière qu'il voulait avoir dans la connaissance des siècles passés et jusqu'à aujourd'hui. Et les conclusions sont présentées par Enrico Castelnuovo. Alors, cette commémoration qui est préparée depuis quelque temps pour essayer de définir un petit peu l'activité, les rapports de chacun, a été menée par Michel Hochmann, Sabine Frommel, Isabelle Balsamo et d'autres, n'est-ce pas ? Et bon, ils ont cherché à associer dans cette commémoration l'Institut de France, le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris, avec lequel nous avons des rapports très étroits et qui est très actif et qui s'est réinstallé dans ce très bel hôtel Lully de la rue des Petits Champs. Le Centre André Chastel au CNRS de la Sorbonne, le Centre d'histoire de l'art de la Renaissance, installé dans la Sorbonne, l'INHA, sur lequel nous reviendrons, et bien sûr le Collège de France. Alors, je voudrais revenir aussi sur, le culte qui lui a été rendu, les célébrations qui ont été faites en son honneur depuis un certain temps. Très curieusement, n'est-ce pas, un film a été réalisé par le musée du Louvre à partir des entretiens qui ont été recueillis en 1989 et 90. Donc c'est intéressant de penser que nous avons véritablement la figure physique, n'est-ce pas, de cet homme qui nous parle, qui nous interprète avec ce regard brillant et rigolard, si j'ose dire, que nous lui connaissions. Et puis, un volume de Mélange en 1987, qui porte un titre qui fait sourire.
Il se rendit en Italie.
Tellement, oui. Tellement, c'est une sorte d'expression rabâchée, n'est-ce pas, pour tous les Français ou les Allemands qui ont voulu vraiment se fondre dans ce qui était la patrie des arts. Il se rendit en Italie, n'est-ce pas. Il y a une sorte de clin d'œil dans cette expression et en même temps, bien sûr, un rappel des rapports qu'il a eus avec tous les organismes d'art et les historiens d'art d'Italie. Et ce volume de Mélange réunissait 46 participations. Alors nous dirons qu'en début, Chastel est un grand chercheur, n'est-ce pas ? Bon, ça c'est sûr, il s'est rendu compte que la simple utilisation des traités d'histoire de l'art, dont il y avait eu beaucoup dans les générations précédentes et depuis le XVIIIe siècle, n'était pas suffisante pour s'imprégner véritablement de l'intégration de l'art dans la société. Ça, c'est un point absolument essentiel. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est à la fois un historien d'art et un historien, parce qu'il a tenu à mesurer combien ces sociétés successives, n'est-ce pas, que l'on réunit quelquefois sous des termes génériques qui sont quelquefois un petit peu fallacieux, le gothique, le roman, le gothique, le classique, le baroque, n'est-ce pas, montrer qu'en réalité, il y avait une véritable interaction entre la création artistique et les demandes de la société qui voyait l'art, mais qui aussi offrait son image aux artistes. Et ça, c'est tout à fait important. Et je vois, excusez-moi de revenir sur une exposition qui se tient au musée Jacques-Marandré, actuellement sur Canaletto et Guardi, et qui montre justement ce qui est intéressant, c'est la différence de vision de Canaletto, de Giorgio, de Guardi, de Bellotto, sur un même endroit de Venise, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils ont une vision différente. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une optique différente, mais aussi ils ont quelque chose à dire de différent sur la couleur du soleil, sur les promeneurs devant la basilique Saint-Marc, etc. Donc, il y a vraiment une interrogation perpétuelle entre la société qui vit à une certaine époque et la création artistique.
Oui, en fait, l'art n'était pas du tout séparé de la société. Ce n'était pas que pour les privilégiés. La population, la société tout entière était concernée.
Tout à fait. Et voyez-vous, je pense qu'avec la multiplicité des expositions d'art auxquelles nous sommes conviés, nous nous demandons si cet art il n'existe que pour le regard du visiteur ou si l'art il nous environne également lorsque nous nous promenons sur le Pont Neuf ou que nous regardons notre appartement ou des enfants qui jouent dans le jardin du Luxembourg, n'est-ce pas ? Ça, c'est tout à fait important, à mon avis, et il l'avait fort bien ressenti. C'était aussi chercheur d'archives, il avait un sens de la recherche en archives tout à fait capital. Il a donc orienté toute une série d'investigations dans les fonds d'archives et faire un inventaire un peu des fonds d'archives qui intéressaient l'histoire de l'art. C'est aussi un grand communicateur et on a réuni dans un volume toutes les chroniques qu'il a écrites dans Le Monde, n'est-ce pas, régulièrement. Ça prouve qu'il affichait sa pensée et sa signature dans un grand quotidien du soir. Tout à fait remarquable pour un historien.
Et il a fondé la Revue de l'Art.
Alors, c'est aussi un grand créateur d'activité. Il a créé la Revue de l'Art, qui était un peu la rivale de la Gazette des Beaux-Arts, n'est-ce pas ? Il fallait un peu arracher une rivalité. Il fallait arracher le flambeau, le drapeau de l'histoire de l'art à la Gazette des Beaux-Arts. Et la Revue de l'Art, qui existe toujours, alors que la Gazette des Beaux-Arts n'existe plus. Il avait aussi créé une revue des volumes annuels qui s'appelait Art de France, un très gros volume regroupant des grandes pages, une quarto très illustrée. Et puis enfin, il y a surtout la création de l'Institut national d'histoire de l'art.
Qu'il n'a pas vu.
Qui est son enfant chéri, qu'il a porté comme ça, qui n'était pas créé lorsqu'il a décédé, et qui est alors l'enfant de son disciple et de mon ami Michel Laclotte, n'est-ce pas ? C'est donc Michel Laclotte qui a réalisé, après la mort d'André Chastel, cette institution qui n'a pas cessé d'accroître son intérêt et d'être la place publique et le rendez-vous des historiens d'art, encore une fois français et étrangers, avec des sessions régulières et puis beaucoup de manifestations, notamment celle qui sera dévouée au souvenir d'André Chastel. C'est un endroit très agréable, n'est-ce pas, dans ces passages derrière la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas, qui rappellent les passages du Palais Royal, n'est-ce pas, où on pénètre dans un espace vitré, puis on a des lieux à droite et à gauche qui vous invitent à suivre des cours, à regarder des expositions, à consulter des bibliothèques déposées par des grands historiens d'art et à écouter des conférences. Donc c'est une création tout à fait remarquable et qui pourrait porter son nom. Ensuite, il s'est intéressé énormément à la création de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, n'est-ce pas ? C'est-à-dire promouvoir des espaces, des lieux qui pouvaient véritablement figurer sur un espèce de panthéon de ce qui avait frappé les différentes manifestations de la société française, et puis aussi la collection des principes d'analyse scientifique.
L'inventaire général nous fait penser aussi à l'ouvrage que vous avez écrit sur la notion de patrimoine.
Alors écoutez, ça c'est une histoire tout à fait personnelle et qui me touche énormément dans mes rapports avec André Chastel. En effet, nous avons rédigé plusieurs éditoriaux dans la Revue de l'Art sur la notion de patrimoine. Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine ? Bon, patrie, qu'est-ce qui vient du père, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que ce qui vient du père est précieux au fils, n'est-ce pas ? Donc, nous avons développé dans ces éditoriaux successifs ces idées de recherche. Et puis finalement, il m'a dit, écoutez, Jean-Pierre, on pourrait refonder un petit peu, réintégrer dans une suite continue ces éditoriaux. Et nous avons publié ce petit livre, La notion du patrimoine, qui se vend toujours chez Eliana Lévy, oui, je dis bien. Et c'est la notion du patrimoine des origines à nos jours. Ça veut dire que le patrimoine qui était d'abord une notion familiale, puis une notion dans les familles aristocratiques, n'est-ce pas ? Puis des familles aristocratiques au royaume, et s'est imposé petit à petit dans l'opinion nationale, puis internationale, mais enfin là nous ne restons que de la nationale, comme étant la nécessité de reconnaître et de préserver des monuments, quels qu'ils soient, l'architecture, sculpture, peinture, n'est-ce pas, manuscrits, qui représentent véritablement un témoignage irremplaçable sur ce qu'on crée, génération qui nous précède. Donc, moi, je me suis beaucoup passionné pour ce livre, ce petit livre, n'est-ce pas, qui est dans beaucoup de mains d'historiens de l'art, jeunes ou moins jeunes, et qui a été donc pour nous l'occasion d'une cohabitation si intéressante jusqu'à la fin.
Oui, et vous montriez juste par parenthèse que, en fait, la notion de patrimoine vient surtout à partir du moment où on risque de le perdre, ce patrimoine.
Absolument.
Et que rien n'a été plus efficace que la Révolution française pour faire avancer ce concept.
Vous avez absolument raison. Et là, au moment où on a commencé à démolir les tombeaux des rois à Saint-Denis, que personne ne se sont dit, mais enfin, ça nous appartient, ça, c'est pas seulement les rois. Hein, c'est les Français qui ont fait ça. Et nous avons besoin que ça garde. Et donc, la création d'un premier...
Il y a eu l'éveil d'un concept.
L'éveil d'un concept, absolument l'éveil d'un concept. Et même les révolutionnaires pur sang, si j'ose dire, se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire table rase du passé de cette façon-là, qu'on ne pouvait pas tout écraser, qu'il fallait savoir d'où nous venions pour savoir où on allait.
C'était une grande dimension.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, d'autre part, Chastel, qui avait un appétit de recherche et de publication absolument considérable, avait accumulé des notes pour une véritable encyclopédie qui faisait la suite de tout ce qui avait été écrit par ses prédécesseurs, Émile Malle et d'autres, n'est-ce pas, sur l'art français, n'est-ce pas ? L'art français...
C'est l'architecture pour lui.
C'est... oui, ça c'est pas seulement... Oui,
enfin, vous convient bien.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, il avait laissé donc des notes considérables et il est décédé, donc, est décédé, comme nous le savons, en juillet 90. Et tout son entourage, et notamment sa veuve Paul Marie Grand, se sont dit, mais c'est pas possible de laisser cette masse de documents, mais également de notes rédigées, n'est-ce pas, dans les tiroirs qui iront dans des cartons d'archives. Donc, ces qu'on a appelés les opéras interrupta, n'est-ce pas, ont été publiés tome après tome. C'est un exemple absolument unique, je pense. Pas le premier tome sur pré-Moyen-Âge, Moyen-Âge roman gothique, paru en 1993. Le deuxième sur les temps modernes, 1430-1620, en 1994. Le troisième tome, Ancien Régime, 1620-1775, en 1995. Et enfin, un quatrième tome qui s'appelle Le temps de l'éloquence, 1775-1825, qui est paru en 1996. Vous voyez, en quatre années, ces quatre énormes volumes, très très illustrés, mais avec véritablement l'écriture de Chastel, ont apparu et figurent maintenant en bonne place dans les bibliothèques de tous les amateurs et tous les historiens et historiens de l'art.
Mais il a eu beaucoup de chance, si je puis dire, oui. Parce qu'il a eu une fidélité
absolument.
De ses amis.
Absolument.
Car j'avais lu qu'il avait été, quand il a su qu'il était malade, oui. Il était triste de
oui.
Ne pas peut-être avoir le temps de finir
absolument.
Pour la France.
Vous avez
alors
tout à fait
qu'il avait
raison.
Beaucoup écrit pour l'Italie.
Vous avez tout à fait raison.
Et que c'était un grand regret et
oui.
Vous avez compensé.
Oui, 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 tout à fait. Voilà. Alors, comme je vous le disais, c'est toujours le binôme l'histoire et l'art, n'est-ce pas ?
Oui.
Et l'art, ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement la peinture, comme un certain nombre de ses prédécesseurs, ou l'architecture, c'est également, bien sûr, la sculpture, mais aussi l'environnement de l'existence. Et puis, nous avons une nécessité aussi de confronter la France avec l'Europe tout entière et l'Italie. Alors, pour vous rappeler des souvenirs personnels que j'ai, nous avions pour la revue de l'art, bon, il y avait un comité de lecture où on examinait un petit peu quels étaient les articles qui allaient paraître, quelles étaient les orientations futures. Et nous avions des réunions chez celle qui était à ce moment-là, qui est décédée maintenant depuis déjà de nombreuses années, qui était la secrétaire générale de rédaction de la revue de l'art, qui s'appelait Marie-Geneviève de la Côte-Messellière. Elle nous recevait dans son appartement qui est à côté de l'Institut néerlandais, derrière là, en allant vers la Chambre des députés. Et ces réunions chez Marie-Geneviève étaient toujours extraordinairement gaies. Je dirais qu'on rigolait ou on s'empoignait quelquefois sur les sujets. Et Chastel avait cet esprit caustique et il aimait rire. Il avait ce regard qu'on voit sur toutes ces photos et qui nous plaît tellement. Alors pour continuer mes souvenirs personnels, j'ai été aussi très ému lorsque j'ai été nommé directeur du château de Versailles en 89, de le voir un jour arriver avec Madame Chastel à la grille du château pour me dire combien il était content que je sois là. Et nous avons reçu ma femme et moi à déjeuner tous les deux et c'était un témoignage qui m'avait énormément touché, n'est-ce pas, que voilà, que saluer le fait que quelqu'un qui avait une formation de conservateur recevait tout d'un coup la responsabilité de la totalité de Versailles. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, je me répète, un homme souriant, un homme affable, un homme autoritaire qui avait ses idées, n'est-ce pas ? Et un prince sans rire, et un homme qui aimait vivre, véritablement.
Oui, il était parisien, mais il avait une maison en province qu'il aimait beaucoup.
Qu'il aimait beaucoup, tout à fait, et où ses manuscrits étaient conservés. Alors, une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a un problème qui est toujours pendant, n'est-ce pas ? C'est que Chastel s'est beaucoup intéressé à l'introduction de l'histoire de l'art dans le calendrier pédagogique de l'école en France, n'est-ce
oui.
pas ? Bon, vous savez,
ça a été un peu
le nombre de
ça.
Demandes qui ont été faites et qui ont été peu réalisées.
Ben, oui.
Ça, il est...
oui. Oui, alors dans l'enseignement supérieur, oui.
Oui.
Dans les lycées et les classes primaires,
non. Guerre.
Maintenant dans le lycée.
Maintenant dans les lycées. Ah, vous êtes plus au courant.
Oui, oui, un petit peu.
Oui, oui.
Pour certaines orientations.
Oui, oui.
Mais un peu quand même.
Un peu quand même, oui.
Eh bien, merci beaucoup. Allez-vous intervenir au moment du colloque dans des thèmes
bien,
un peu précis ?
Moi, j'interviens dans l'action publique sur Chastel et le patrimoine.
Oui.
Bon, et j'ai donc recherché un petit peu ces interventions à la Commission supérieure des monuments historiques. Et voilà, dans les premières, j'ai regardé un petit peu dans les procès-verbaux ces interventions. Et puis aussi cette notion donc, de sauvegarde des établissements classés au niveau supérieur pour leur conservation et l'étude de leur restauration, puisque c'était un problème. Voilà, est-ce qu'il fallait faire tout reconstruire ou accepter du violet du duc ou non faire du façadisme ou refuser d'avoir uniquement l'espace ancien derrière et puis le devant conservé et puis l'espace au contraire derrière refait. Voilà tous les problèmes qui se posent toujours aujourd'hui, la reconnaissance aussi d'un patrimoine qui va dans notre pensée d'aujourd'hui jusqu'à quelle date ?
Oui.
Jusqu'à quelle date ? Voilà.
Oui. Ne pas faire partie comme les générations qui sacrifiaient la précédente, juste
oui.
La précédente.
Tout à fait, oui, oui. Ouais. Oui, oui.
Le respect total.
Voilà.
Merci beaucoup, monsieur. À plus tard.
À plus tard.